On va commencer Bezrat Hashem, notre quatrième cours, sur le chapitre 42, chapitre très important dans le Tanya, qui va s'arrêter aujourd'hui principalement sur l'importance de la Hidbonenout. Hidbonenout, c'est-à-dire la réflexion. Réflexion. Rappelez-vous ce qu'on a terminé la semaine dernière, on a expliqué la semaine dernière dans la page 262, que dans les profondeurs de chaque juif se cache un trésor. C'est quoi ce trésor? C'est un trésor de Yirat Shamaim, c'est un trésor de crainte du ciel. Et que de la même façon que dans la terre partout en dessous, il y a des trésors, et qu'il faut faire appel à un géologue pour chercher, mais on sait qu'il y a des trésors partout. De la même façon, un juif doit être convaincu qu'au fond de lui, il y a un trésor. Un trésor de quoi? Un trésor de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est que des fois, ce trésor reste enfoui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, au fond de nous, on est tous des bons juifs. Des bons juifs, croyants, etc., tout ce qu'il faut. Le problème, c'est que parfois, ce trésor, il reste enfui au fond de nous. Et il ne se dévoile pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour dévoiler le trésor? C'est une question que plusieurs ont eue la semaine dernière. À la fin du cours, c'est une question que plusieurs ont posée. C'est-à-dire, c'est comme si, imagine-toi, tu me dis que dans moi, il y a un trésor, d'accord, mais que j'arrive pas à le prendre. Il y a ce fameux exemple qui est raconté beaucoup dans les livres de Midrashim, de Moussa. On dit qu'une fois, il y a une personne qui a rêvé. Et il a eu le Baal HaChalomot, le maître des rêves qui est venu le voir, et qui lui a dit, il y a un très grand trésor, alors bon, je vous l'adapter l'histoire, mais il y a un très grand trésor qui est caché sous le pont de Vienne. Alors il est parti à Vienne, il commence à creuser. Il commence à creuser. Et il creuse, et il creuse, et il creuse. Et qui vient le voir? Le gardien. Un gardien municipal. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il est en train de creuser à côté du pont. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? C'est dangereux, qu'est-ce que vous faites?
Bah ouais.
Là, il a répondu, il a dit, écoutez, je suis prêt à payer ce qu'il faut, d'accord, mais il y a un trésor ici, bonsoir. Il y a un trésor ici, je suis venu le chercher. Alors, le gardien, il a écouté, il a dit, vous savez, de quelle ville vous venez? Il dit, moi, je viens d'Odessa. Il dit, c'est très bizarre parce que moi, la nuit dernière, j'ai fait un rêve. On m'a dit, il y a un juif qui habite dans un endroit à Odessa, et on m'a décrit une maison, et on m'a dit que sous sa maison, il y a un trésor. Il dit, mais c'est ma maison. Et il est rentré chez lui, et Bémet, il a trouvé un trésor sous sa maison. Je sais pas s'il y avait un trésor dans le pont aussi. Et quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que parfois, on va chercher les trésors ailleurs. Alors qu'en vérité, le trésor, il est en toi, mais il est chez toi. Et là, ils pensent, ils vont aller ailleurs, ils vont écouter d'autres choses, ils vont voir des nouveaux horizons, etc. Alors qu'en vérité, le trésor, il est sous ton nez, il est en toi, le trésor. Seulement, la question est, comment faire pour dévoiler le trésor qui est en nous, que un trésor qui est là, mais qui est enfui? La seule façon, d'après la Chassidoute, pour y arriver, c'est par la Hidbonenout, c'est par la réflexion. Alors je voudrais quand même préciser. Vous savez, des fois on va parler à des gens qui ont fait teshuva. On va dire, pourquoi t'as fait teshuva? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mouche t'a piqué pour que tu fasses teshuva? T'avais une vie qui était relativement stable, tout d'un coup t'as décidé, je vais tout changer. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a plusieurs types de réponses. Et vous allez comprendre avec mes réponses où je vais en arriver. Il y en a un qui va te dire, il dit, tu comprends, j'ai eu un copain qui a eu un accident très grave, ou j'ai perdu un proche, ou j'ai perdu ci, etc. Et j'ai eu un déclic, etc. Mais en général, les déclics comme ça, qui ne viennent pas de la personne, qui viennent d'une raison extérieure, en général, ça tient pas. Ça, je peux vous dire, j'en ai vu. Bonsoir. Ouais. Ça veut dire que lorsque la personne n'a pas fait un effort de réflexion, il n'a pas fait un effort de teshuva, et que la raison de son retour est uniquement extérieure, elle partira aussi vite qu'il est venu. Pourquoi? Parce qu'il y aura malheureusement d'autres raisons extérieures qui vont le pousser après à oublier ce qu'il a retenu. Par contre, si une personne... Alors, c'est vrai que des fois, il y a un appel de phare, mais qu'après, la personne a fait un effort de réflexion. Une démarche, d'accord, de Hidbonenout, dans laquelle il va réfléchir. Réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est important? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est la seule façon d'avoir un résultat durable. D'avoir un résultat durable dans le changement de notre personne. Et c'est exactement ce que dit ici Edmond Razaken. Edmond Razaken te dit, au fond de toi, tu as un amour caché vers un cadeau de bon goût. Maintenant, cet amour caché, comment on fait pour le dévoiler? Alors, il y en a qui vont te dire, attends Kippour. C'est vrai que Bémet Kippour, cet amour caché, il se dévoile. Mais le problème, c'est qu'après Kippour, il y a le lendemain de Kippour. Et le lendemain de Kippour, il couvre Kippour, c'est fini. Donc ce trésor qui s'est peut-être dévoilé le jour de Kippour, il s'est recaché. Pourquoi? Parce que Kippour, j'ai rien fait pour ça. C'est venu. J'étais passif. Ah bien sûr, peut-être je me suis préparé, ça c'est bien. Mais si je ne me suis pas préparé, Kippour est venu, j'ai senti quelque chose. Mais moi, j'ai rien fait pour ça. Donc peut-être qu'à Kippour, je vais sentir quelque chose. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'effort de réflexion, ça va partir aussi vite que c'est venu. Vous rappelez Kippour? Ça fait combien de temps Kippour? 15
jours.
Vous rappelez?
C'était hier.
Ah, le plus beau.
Ah non, c'était pas hier.
Moi, non, mais quand c'était hier, c'était non. Ah,
tu demandes c'est quand Kippour, moi je te réponds, ça fait... Non, mais si je te demande dans ta tête, ça fait combien de temps Kippour?
C'est bientôt.
Hein? C'est bientôt. À l'attend prochain.
Ça peut être bientôt ou ça peut être hier?
Oui, David.
Hein?
C'est bientôt.
Bien sûr, c'est bientôt.
On se prépare.
Maintenant, ça y est, c'était hier. Bon, maintenant, on se prépare pour le prochain.
Alors, c'est qu'il explique Edmond Razaken. Il te dit que pour dévoiler l'amour caché qui est au fond de nous, nous sommes obligés de passer par la Hitbonenout. D'accord? Donc, dans les mots, Hitbonenout. Réflexion. On a la crainte dans le cœur. Chacun de nous, il a une crainte dans le cœur. D'accord? Rak. Je suis au milieu de la page 263. Rak, c'est ici qu'on s'est arrêté. Shekide, Shetavo, Lidema, c'est Biprinat. C'est bon? Page 263. Au milieu de la page. Allez, on y va. Rak seulement. C'est bon, je suis dans le...
Ça va pas être loin.
On n'arrive pas tout le monde, David, ça suffit.
C'est là. Rac.
Non, mais là, je suis sûr qu'il est dédié à la mémoire de me.
Ah bon.
C'est le livre du Rabbi.
Bonne excuse.
C'est bon, ça va.
C'est ce que je veux. Non, mais ils aiment bien. Ils aiment bien comprendre.
Pour le TSH, il prend un patard.
Ok.
David.
La Rac.
David. C'est le petit grand livre.
Rac. Seulement Rabotai. Chekédé. Jeta voli des masses. Et pris la tira traite. Au fond de nous, chacun de nous, on a une crainte cachée de Rakadosh Baruch Hu. Seulement, cette crainte, elle reste cachée. Rappelez-vous, c'est un trésor de crainte de Dieu qui est enfui. Pour dévoiler cette crainte de Dieu, pour qu'elle se traduise dans la vie de tous les jours, l'iot surmera bemas et dibourou marchava, pour que concrètement, content, je vais m'éloigner du mal, dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Tsarir legalota mimatspun et midata lev shelmala meazman, te dis, le trésor que tu as au fond de toi de crainte de Dieu qui est enfui au fond de toi, c'est un trésor qui transcende le temps, qui dépasse le temps, qui est au-delà du temps, qui est indéfini, qui est abstrait. Ça veut dire que autant au fond de toi tu peux être ultra religieux, tu crois en Dieu, tu as peur de Dieu, etc. Et autant ton comportement concret et réel, dans ce que tu dis, dans ce que tu penses, dans ce que tu fais, tu peux être à côté de la planète. Comment c'est possible? Parce que ça c'est un des grands paradoxes qu'il y a chez l'homme. Que l'homme, il peut être quelqu'un au fond de lui, et dans le comportement concret, dans la vie de tous les jours, il est une autre personne. Et c'est pas une contradiction. Parce qu'il y a un effort à faire pour exprimer ce que j'ai au fond de moi. Donc te dis là de Edmond Razaken, l'effort que tu as à faire, c'est pas de créer la crainte de Dieu.
Non, c'est de la révéler.
Tu l'as déjà. L'effort que tu as à faire, c'est dévoiler avec les techniques qu'on va donner aujourd'hui. Des techniques, d'accord, vous allez voir, très concrètes. Des techniques qu'on va t'expliquer, pour dévoiler la crainte de Dieu que tu as au fond de toi et la rendre plus concrète et moins abstraite. C'est-à-dire quand on dit par exemple à quelqu'un, on lui dit « Est-ce que tu aimes Dieu ?» Vous connaissez un juif qui va vous répondre non ? Il va dire oui. Est-ce que tu fais ce que Dieu lui demande ? Ah, ça non. Pourquoi ? Parce que bon, l'amour qu'il a envers Dieu est un amour qui est abstrait. « Oh, je l'aime, ça me coûte rien. » Facile de lui dire « je l'aime ». Je peux dire « je le déteste pour le même prix ». C'est shalom. Seulement, on te dit, la question, l'effort qu'il y a à faire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire descendre et pour développer cette crainte et ce sentiment profond que j'ai au fond de moi pour le rendre plus concret. Et il va expliquer. Tout démarre par la pensée. Ça veut dire qu'on touche quelque chose qui est abstrait, complètement abstrait. Comment je fais pour prendre quelque chose d'abstrait et le rendre concret? Ça passe par la pensée. Je veux penser à quoi? Je pense à quoi?
C'est dur d'aimer quelqu'un que tu vois pas, ça.
Je comprends, mais ça veut dire, hein, au fond de nous, on a la crainte de Dieu. Je veux dire, un juif normalement conçu, d'accord, qui est grandi dans une famille traditionnaliste, etc. Normalement, au fond de lui, il sait que Dieu, c'est le patron. Il sait qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Ça, il le sait, au fond de lui. Et pourtant, je fais ce que je veux. Comment c'est possible?
Il a oublié.
Tu vois, mais ça, il y a un problème. Ça veut dire, si tu me poses la question à n'importe quel jour, n'importe quelle heure, tu me dis, dis-moi, Mandy, qu'est-ce que t'en penses? C'est qui le patron du monde? Qu'est-ce que je voudrais répondre? Bien sûr, Akadosh, Baruch, très bien, bon, Mazel Tov. Bon, maintenant, dis-nous ce que tu viens de faire la dernière journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Makara, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est
qu'en fait, c'est resté abstrait. C'est resté abstrait. C'est au fond de moi. Je sais que je crois en Dieu, je sais que j'ai la crainte de Dieu, je sais qu'il y a l'amour de Dieu, mais c'est resté abstrait. Donc, il y a un effort de réflexion qui est incontournable. Et le but de cet effort de réflexion, c'est pas stam de penser à Dieu. C'est déjà bien. Mais c'est de prendre un élément qui est enfui au fond de moi et qui est abstrait, et essayer de le rencontrer avec les techniques qu'on va donner. Il explique tout de suite. Léa mikba, machashavto, mesher zmanma mamash. Achitetse peulata, meakor à la poêle mamash. Prendre le temps qu'il faut. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'il y a des gens qui peuvent se suffire de 5 minutes de réflexion, il y a des gens qui ont besoin d'une heure, des gens qui ont besoin de 2 heures, ça dépend de notre âme, ça dépend de beaucoup de choses, mais il n'y a pas le choix. Il faut prendre. Il faut prendre, c'est possible. Il faut prendre le temps qu'il faut. Non, mais ça marche. Il faut prendre le temps qu'il faut. Achetetse peulata, meakor à la poêle. Il faut passer du potentiel à l'état actuel, vraiment, concret. Ça veut dire que maintenant, il faut arrêter les excuses. Il faut arrêter. Quand tu veux dire, mais pourquoi t'as pas fait? Il dit, oui, mais tu comprends, au fond de moi, je voulais le faire, et vraiment, je crois en Dieu, et j'aime Dieu. Oui, mais sur le terrain. Comme quelqu'un, il est parti faire des affaires. Il dit, mais tu comprends, le client, je voulais vraiment le convaincre, et j'étais sûr que j'allais gagner beaucoup de sous. Il dit, bon, t'as parlé, elle est belle ta parlotte. Montre-moi le compte en banque. Et où l'argent? Il dit, mais tu comprends, je voulais, je pensais vraiment. En plus, j'ai un super produit, en plus, c'est super, le top, etc. Où est l'argent? C'est comme ça qu'il faut parler, etc. Et c'est comme ça qu'on doit se parler. On doit se dire que c'est pas suffisant au fond de nous d'être croyant en Dieu, de dire qu'au fond de moi je crois en Kadosh Baruch Hu. Il faut que ça, qu'on ait une application concrète sur le terrain, qu'on voit concrètement que sur le terrain ça change. Ok? Alors je réfléchis à quoi maintenant? Alors on tourne la page. Liot, Sourmera, va à Setov. On va commencer à donner les techniques. Bemarchava, Dibour, Umaase. Mipne Hashem, Atsofe, Umabit, Umaazin, Umakshiv, Umevin, Atkolmaaseo. Il va nous donner plusieurs termes ici, et c'est pas des synonymes, c'est pas des superlatifs, c'est des termes qui sont vrais. Tu vas commencer à réfléchir avec ton imagination au fait qu'Akadosh Baruch Hu observe et voit, écoute et entend et comprend tout ce que je fais. Ça veut dire que je peux rien lui cacher. Vous savez, on peut tromper tout le monde. Tout le monde. Même nous-mêmes, on peut se tromper. On peut nous tromper nous-mêmes. Nous faire croire que je suis ça. On peut tromper tout le monde. Tu fais ce que tu veux. D'accord? Bonsoir. Salut. La seule entité, si je peux appeler ça comme ça, que tu peux pas tromper, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Réfléchis juste à ça. 2 secondes. Ça veut dire comme ça. Tu dis la crainte de Dieu. Mais c'est un grand mot, la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Il faut essayer de matérialiser le concept. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu? Tu vois, à l'époque, il disait Big Brother is watching you. Ils faisaient des polars, etc. Hein. Oui, ça n'a pas changé, mais ça n'a pas changé, c'est la vérité. Tu racontais comment viendra le jour où on observera tout ce que tu fais, et c'est ce qui se passe.
Exactement.
Ça veut dire, nous, ce qu'on sait, c'est ce qu'ils veulent bien nous raconter. Tu sais, avec de l'espace, ils sont capables de voir une plaque d'immatriculation. Et à mon avis, beaucoup plus que ça.
Ouais. Même d'entendre ce qu'on a.
Ça, c'est ce qu'ils veulent bien nous raconter.
Même d'entendre ce qu'on
a. Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Tout.
Les grandes oreilles.
Tout. Les grandes oreilles, exactement.
Ouais,
c'est
ça.
Oui.
Non, comme ça.
On arrive à isoler des fréquences visuelles, des fréquences vocales. On arrive à tout faire.
Des fréquences dans l'air.
Le portable, vous arrivez à...
Bien sûr. Même un portable éteint, vous savez ça. Même un portable éteint. Et même ça, ils arrivent à faire maintenant. Parce que c'est parce qu'il y a une énergie qui reste. Et c'est bon, peu importe. Ça veut dire quoi?
Enfin, je me comprends.
Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, je dis, mais pourquoi on n'est pas venu ici pour parler de la NSA?
D'accord. Non, mais c'est tout comme...
Ouais. Voilà, je suis pas mis pour parler de ça. Ce que je veux dire ici, c'est comme ça. C'est que lorsqu'on te dit qu'on voit la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il faut essayer de s'imaginer, imaginons que je devrais avoir peur de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que j'ai peur de cette personne? Même pas peur. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que j'ai peur d'une personne? Pour que j'ai peur d'une personne, il faut que je sache que je ne peux pas lui échapper. Parce que dès que je vois une échappatoire, je dis, bon, c'est vrai qu'il y a de la pression, mais il y a une porte ici. Cette porte, je ne l'ai pas encore ouverte, mais je peux l'ouvrir. Donc, quelque part, j'ai plus peur. Tu peux même mettre quelqu'un en prison. Mais dès qu'il voit qu'il y a une porte où il peut sortir, il n'a plus peur. Parce qu'il sait qu'il peut sortir. Il peut. Maintenant, la peur ultime, et je m'excuse si je. Mon but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est.
La peur, la trouve.
La crainte. Monsieur, la peur, la trouille, oui. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour tuer peur de quelqu'un ou de quelque chose?
Que tu dois faire encore
une peur ultime. C'est le fait que tu sais que tu ne peux pas lui échapper. Pourquoi j'ai pas une peur ultime de la police?
Parce que je ne la vois pas tout le temps.
Parce que je ne la vois pas tout le temps et parce que je sais que je peux lui échapper. Peut-être pas à 100%, 5%, 10%, 15%, 50%, mais je peux. Donc, je peux pas dire qu'il n'y a aucune entité dans le monde qui m'attrape et que je peux dire celui-là, je ne peux pas lui échapper. Ça n'existe pas. La seule chose sur Terre que je ne peux pas lui échapper, qui m'observe, qui me regarde, d'accord, qui m'écoute, qui m'entend, et qui comprend tout ce que je fais, je ne peux rien lui raconter. Je peux lui dire, oui, mais tu comprends Hachem, en fait, je pensais que, non, t'as cru que j'ai regardé ça, mais j'ai pas regardé, je voulais faire ça, etc. Ça, tu racontes tes baratins à qui tu veux. Tu racontes ça à ta femme, à ta mère, à ta soeur, pas de problème. Mais Dieu, tu ne racontes pas les salades. Et ça, Dieu, il sait ce que tu as dans le cœur. Mieux que toi. Hein? Et donc, pas seulement ça. Ubochen kiliota velibo. Akadosh Baruch Hu, dis-toi que Akadosh Baruch Hu, bochen kiliota velibo, Akadosh Baruch Hu sonde les reins et le cœur. Donc le cœur, c'est les sentiments, et les reins, ça veut dire les pensées très profondes qu'on a en nous. Les pensées que personne connaît. Ça veut dire que chacun de nous, il y en a qui appellent ça le jardin secret, ils aiment bien appeler ça comme ça. C'est-à-dire, chacun de nous, il y a des choses qu'on montre et des choses qu'on ne montre pas. Partie de ma personne que je ne montre pas, que peut-être moi-même je ne connais pas. Dieu connaît tout. Tout. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec cette réflexion? J'essaye de m'imaginer, alors encore une fois, ça prend du temps à réfléchir à ça. Ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, 30 secondes, ça dépend de chacun. J'essaye de m'imaginer qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, je dois craindre Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut m'imaginer. Pourquoi je dois craindre Akadosh Baruch Hu? Je crains Akadosh Baruch Hu parce que, physiquement, je sais qu'Akadosh Baruch Hu m'observe. Et d'ailleurs, il te dit, c'est pas moi qui t'invente ça, les Morazakas te disent. C'est pas moi qui t'invente cette idée que je dois essayer de matérialiser Akadosh Baruch Hu. C'est un peu ça, en vérité, ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, on prend un concept qui a été dématérialisé, qui était abstrait, et on te dit, il faut que tu le matérialises. Imagine-toi, quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui te voit, quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui te sonde, il ne te lâche pas, tu peux rien faire. Dès que tu penses, hop, t'as pensé à ça. Et là, tu viens penser à ça. Tu peux rien faire. Alors, il dit, mais, qui a dit qu'on doit avoir cette image de Dieu? Est-ce que c'est pas mieux, quelque part, d'avoir une image abstraite d'Akadosh Baruch Hu? Comme les enfants. Souvent les gens ils ont une image abstraite d'Akadosh Baruch Hu. Qui a dit qu'on devait avoir une image matérialiste d'Akadosh Baruch Hu? Et tu dis c'est une Mishnah Meforeshet, une Mishnah explicite dans Pirkei Avot. Qu'est-ce qui est écrit dans Pirkei Avot? Chapitre 3. Ukma Amar Razal. Comme disent nos sages, Istakel Bishloshat Varim. Il est écrit comme ça. Dans le chapitre 3 de Pirkei Avot. Istakel Bishloshat Varim. Regarde. Ça veut dire observe avec ton intellect trois choses. Et tu n'arriveras pas à la vera. C'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Aïn roa, un œil, l'œil de Dieu donc qui regarde. Ve ozen shomat, une oreille qui entend, etc. Et la suite c'est ve chol ma'asecha be sefer nirtavim, mais que tous tes actes sont écrits dans un livre. C'est intéressant ce que dit le Mishnah. Le Mishnah ne te dit pas, une emuna kadosh baruch hu, dis-toi qui va te frapper. Non, on n'a pas dit ça. On t'a dit, istakel, regarde bien, ça veut dire, utilise ton imagination, ce qui est écrit dans la Mishnah, pour penser à trois choses. Et si tu penses à ces trois choses-là, tu peux pas fauter. Seulement, istakel. Istakel, ça veut dire, ça veut dire, il y a roé, c'est voir, istakel. Istakel, c'est bien regarder. Ça veut dire, je sais que Dieu y voit. Je sais que Dieu y entend. Je sais. D'accord? Je sais aussi que tout ce que je fais, c'est écrit dans un livre et qu'un jour, on me le ressortira les comptes. Mais je sais. Peut-être je vois aussi. Mais j'observe pas. Je n'ai pas mistakel. Mistakel. Et mistakel, c'est quand on fixe quelque chose. Te dit Rabbi Yehuda HaNasi dans la Mishnah, chapitre 3 de Pirkei Avot, il te dit, observe, fais bien attention, pense bien à trois choses, et si tu penses à ces trois choses, tu ne peux pas voter. Tu ne peux pas voter. Tu dois penser au fait qu'il y a un œil qui regarde, une oreille qui entend, d'accord, et toutes tes actions sont écrites dans un livre. Quand tu fais ça, tu dis, mais je ne peux rien faire, je ne peux pas lui échapper. Parce que, il voit tout ce que je fais, il entend tout ce que je dis, et je peux faire aucun écart parce que tout sera écrit, tout est consigné par écrit. Kolm asecha besefer nirtavim. La vérité, c'est qu'il y a un commentaire du rabbi dans lequel le rabbi dit, avant génération, enfin, avant la révolution technologique, et pas seulement technologique, la révolution industrielle qu'on a connue, lorsqu'on disait à un juif il y a 3 siècles, on lui disait, tu sais, imagine-toi, Kakadosh Banrou, c'est un œil qui regarde, une oreille qui entend, que c'est écrit dans un livre. Il avait du mal à s'imaginer. Parce que c'est comme si tu veux lui dire, imagine-toi que celui qui est à New York, tu vois, l'océan, il faut là-bas des mois de voyage, imagine-toi qu'il t'entend. Il va dire, bon, c'est abstrait, c'est la question de raconter des histoires. Et on voit comment, avec les découvertes de la science, comment ça nous aide. Je dis pas que Dieu passe par la radio pour nous écouter, mais il explique qu'avec les découvertes de la science, ça nous aide à nous imaginer plus facilement. C'est-à-dire que notre imagination, on dit oui, finalement, on sait qu'aujourd'hui, on est capable ici de capter les ondes radio qui sont à des millions de kilomètres. Et on les capte. D'accord? Mais partout. Ça veut dire qu'il y a même des signaux, des millions de kilomètres. D'accord? On sait très bien qu'il y a des signaux radio qui sont envoyés, que des fois, ils prennent plusieurs semaines à arriver. Et on les capte. Le seul problème, c'est savoir les isoler. Donc quand on vient voir un juif aujourd'hui, et on lui dit, tu sais, imagine-toi que Dieu, c'est un œil qui regarde, et une oreille qui entend, et que tout est écrit. C'est pas une idée qui me choque aujourd'hui. C'est même pas une idée qui m'a l'air abstraite, c'est une idée qui m'a l'air concrète. Alors, Dieu n'a pas besoin de la radio et de la télé pour, etc., évidemment. Ça, c'est un exemple que le rabbi avait dit. Que c'était justement un commentaire sur la parachat noire. Je vais vous expliquer ce qui a inspiré le commentaire du rabbin dans la parachat noire. C'était en Tafshin la Maîtrette. Tafshin la Maîtrette, 1976 ou 77. Et le rabbi, c'était après l'akafot de Simchat Torah, 770 à New York. Le rabbi a demandé à ce qu'on organise des akafot shniot. Ça veut dire qu'on organise des secondes akafot. Le 7 Rejvan, cette semaine c'est le 7 Rejvan. Qu'on organise des akafot shniot à Hebron, d'accord, dans le caveau des patriarches, et à Jérusalem au Kotel. Le 7 Rejvan, comme ce vendredi, avec les Sifrei Torah et tout.
Ils vont faire,
Non, il avait demandé en 76-77. Comme ça, il a demandé au chassidim. Mais pour il n'a pas expliqué pourquoi.
Pour une fois.
Une seule fois, oui. Il n'a pas expliqué pourquoi. Après coup, on a réalisé qu'en vérité, il était en train de préparer, qu'il y avait des pourparlers que personne n'était au courant, qui étaient en question pour Jérusalem et pour Hebron. Mais ça, c'est une autre question. Donc le rabbi, sans même qu'il soit au courant de ça, officiellement en tout cas, il a demandé à ses chassidim en Israël, donc ceux qui étaient à New York, qui comptaient retourner en Israël, il leur a dit, maintenant vous êtes avec moi, on a passé les fêtes ensemble, vous allez rentrer en Israël, et le 7 Marcheshvan, vous allez prendre des autobus de tout Israël, de tous les chassidim, de tout celui qui veut, vous allez annoncer à la radio, à la télévision, enfin à la radio partout, où vous voulez, et il faut qu'un maximum de gens viennent au Hakafot, d'accord, supplémentaire le 7 Marcheshvan. D'accord, 7 Marcheshvan, c'est 2 semaines après les fêtes. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils l'ont fait à Hebron, au caveau des patriarches, et ils l'ont fait aussi au Kotel. Et là, j'ai entendu l'histoire du Rav Gourevitch. Rav Gourevitch, aujourd'hui, il est chiliard du rabbi à Migdal HaEmek, en Israël. Et lui, à cette époque-là, il venait d'être envoyé par le rabbi, il était à Jérusalem. Il est venu, mais sur au Kotel. Et il s'est dit, le rabbi, il est maintenant à New York, et il sait qu'on est en train de faire la capote ici, mais il n'a pas de moyen de nous voir, de nous entendre, parce que c'est à l'époque, il y a pas. C'était en 76-77. Donc, il a eu une idée. Il a demandé au Rav Gatz. Le Rav Gatz, c'était le Rav du Kotel. À l'époque, c'est un géant. Il a dit, j'ai une faveur à vous demander, je paierai ce que ça coûte. Et il dit, vous voyez votre bureau, parce que le bureau du Rav Gatz, qui est le Rav du Kotel, donné sur l'esplanade du Kotel. Il a dit, est-ce que ça vous dérange pas qu'on fasse une conversation, un appel téléphonique à New York, au secrétariat du Rabbi, et qu'on mette le téléphone, on tire le téléphone le plus possible de votre bureau pour que le Rabbi puisse entendre un peu le son des akafot qu'il a demandé de Eretz HaKodesh. Donc le Rav Gatz tout de suite a accepté, il a dit c'est bon, c'est d'accord. Il a accepté. Et là, tout de suite ils ont appelé le secrétaire du rabbi, et le rabbi n'a pas demandé, hein, c'était une surprise. Ils ont appelé, et après le Rav Gourevitch dit, je sais pas ce qui s'est passé après. Moi juste, j'ai appelé le secrétaire du rabbi, j'ai transmis la conversation. Après, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais la conversation téléphonique, elle a duré plus d'une heure. Enfin, le temps que ça a duré, la capote. Maintenant, le rabbi, on sait que l'appel lui a été transmis dans son bureau et qu'il a suivi. Je sais pas combien de temps, mais en tout cas, il a suivi, il avait le téléphone à côté de lui. Et suite à ça, le Shabbat d'après, c'était Shabbat noir. Suite à ça, c'était pas noir, mais bon, suite à ça, le rabbi, il a fait un Fabringen, dans lequel il a expliqué que toutes les révolutions technologiques à Kadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc évidemment, après, je sais pas, on n'est pas dans la tête du rabbi, mais ce qui l'inspirait, c'est probablement ce qui venait de se passer. C'est-à-dire qu'il était là, dans son bureau à New York, Brooklyn, et il est en train de vivre un événement que ses chassidim faisaient en direct au Kotel. C'était grandiose. Pour l'époque, c'était grandiose. C'est-à-dire, à l'époque, il fallait des plateaux, télé, des chaises se préparer pendant des mois. Et là, avec une idée, tu vois, quand il y a des téléphones, un bureau, etc., il a pu avoir ça. Et le rabbi, il a dit comme ça. Il a dit que tout ce que Dieu a créé, il a créé pour son honneur. Il a amené une gmara. La gmara a dit que l'or, par exemple, pourquoi l'or a été créé? L'or a été créé pour le Beth Amikdash. Ah, pourtant, on voit que la majorité de l'or est utilisée pour la cupidité des hommes. Pour les bijoux, pour les idoles, pour la Vodazara. Vous savez, les temples de l'époque, combien d'or et d'argent il y avait? Beaucoup plus que le temple. Dit la Gemara répond comme ça. Et dit, est-ce que Dieu va détruire son monde à cause des fous? Ça veut dire quoi? S'il y en a qui utilisent mal l'or, c'est leur problème. Mais nous, on sait que la vraie raison pour laquelle l'or a été créé, c'est pourquoi? C'est pour le Beth Amikdash. Et le rabbi, il a utilisé, donc il a poursuivi ce raisonnement, et il dit de la même façon, d'accord? La vraie raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé toutes ces révolutions, donc déjà c'est à l'époque 76-77, toutes ces révolutions de communication, de technologie, etc. Le but, c'est pour qu'un juif puisse servir mieux Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le vrai but. Ah, pourtant, il y a des gens qui vont utiliser le téléphone et la radio pour d'autres choses. Mm-hmm. Pour écouter des chaînes qui ne sont pas cachées, pour écouter des choses comme ça. Alors, est-ce que le monde de Dieu va détruire à cause des fous? Il avait dit, la vraie raison pour laquelle la radio a été créée, c'est pour diffuser les cours de Torah. Il avait donné cette image magnifique. Parce qu'on sait qu'une onde radio, moi, je vous parle, que je referme tout de suite, On sait qu'une onde radio, lorsqu'elle se propage, dans tout l'univers.
Dans toutes les directions.
Ça veut dire qu'après, seulement, la question, est-ce que tu as un bon appareil pour capter cette onde? Mais en théorie, une onde radio que j'émets ici, même une parole, quand je parle, j'émets une onde. En théorie, cette onde, elle va jusqu'à Mars et jusqu'à partout. Seulement, il faut avoir le bon appareil pour capter cette fréquence. Je vous apprends rien, j'espère.
Non,
d'accord.
C'est
la réalité, ce que je vous dis. C'est sérieux, ce que je vous dis. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je suis en train de faire maintenant un cours de Torah, je suis en train d'emplir l'univers entier de Torah. Parce que l'onde de choc qui se propage avec ma parole de Torah, cette onde, d'accord, vocale, elle se répand dans tout l'univers. C'est-à-dire que même à Mars, si on arrive à se concentrer, on peut écouter le cours de Torah qu'on a ici. C'est-à-dire que le monde entier est plein de Torah. Maintenant, évidemment, ça va là dans le mal aussi. Partout.
Ça va dans l'autre sens aussi.
Ben évidemment.
Mais c'est comme ça qu'on capte des...
Non, mais Dieu, il est pas en haut. Il part de là. Non, mais Dieu, il est pas en haut. Oui. C'est énorme. Et là, je refais la parenthèse, c'est là que le rabbi a expliqué l'idée suivante. L'idée de l'œil qui regarde, d'accord, et de l'oreille qui entend. Il a dit que la raison pour laquelle, alors on commençait à voir la télévision en couleur, des choses comme ça, etc. Bon, il y avait, sur 1977, on était quand même bien avancé déjà. Il dit que la raison pour laquelle on a eu tout ça, c'est pour aider un juif à mieux s'imaginer, quand on lui dit que dans le Pirkei Avot, que pour l'empêcher de fauter, il doit se rappeler qu'il y a un œil qui regarde et une oreille qui entend, pour l'aider à mieux s'imaginer, c'est aussi une des raisons, et peut-être même la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fait toutes ces technologies et toutes ces révolutions, qu'aujourd'hui, quand on me dit, tu sais, on entend ce que tu dis, ça me choque pas. Ça veut dire que moi aujourd'hui, à la limite, ça me choquerait plus si on me dit qu'il y a une chose que je peux faire que personne ne saura. C'est impossible que personne ne saura. Aujourd'hui, tout ce que tu fais, tout le monde peut le savoir. Est-ce qu'ils ne sauront pas? J'en sais rien, mais ils peuvent le savoir. On les trace partout. Il n'y a pas d'endroit où on laisse pas de traces. Et ça nous aide à savoir avec un autre monde. Alors imagine-toi. Dieu est plus fort que la NSA.
Ah,
on est attirés, d'accord? Donc si déjà la NSA, elle peut savoir tout ce que tu fais.
Tout
ce que tu fais. Ça veut dire que la seule question, la question n'est pas est-ce que techniquement ils peuvent t'espionner ou pas. La question est-ce que tu es une cible intéressante pour eux? Est-ce que tu es un espion? Si tu es une cible intéressante, ils arriveront à te... Techniquement, ils peuvent te piéger, ils peuvent t'écouter, ils peuvent tout faire.
Ouais,
seulement moi, probablement, ils me ciblent pas parce que je suis pas quelqu'un d'intéressant pour eux.
Ah.
D'accord?
Okay. Question de curseur.
Je vous endors là.
Il y a un curseur qui est là-dedans. C'est très dangereux.
Mais vous savez que tous les responsables communautaires, ils ont leur fiche à la DGSE.
Naturellement.
Sérieux, hein?
Ce qui est quand même assez.
Tous les responsables communautaires religieux, ils ont tous leur fiche.
Enfin, ce qui est restrictif. Dès que tu as des fonctions.
Moi, je ne dois pas avoir, mais mon père, à mon avis, d'abord, c'est sûr. Tous les responsables religieux, ils ont tous une fiche. C'est connu, c'est quelque chose connu ce que je vous dis. C'est comme ça, parce qu'ils sont obligés, de suivre.
De Pirkei Avot, il y a juste une notion quand même.
Ouais.
Qui n'est
ils n'ont pas,
pas
d'affiche.
Parce que là, on, c'est quand même, c'est HM, et un œil qui voit, une oreille qui entend, et les déconseillés, c'est tout ça, c'est lié quand même à une action.
Oui. Non, c'est passif.
Non. Attends. Quand un œil voit, c'est-à-dire il voit ce que tu fais.
Oui.
Il entend ce que tu dis.
Oui.
Mais ça ne va pas aller jusqu'à la pensée. Dieu va encore plus loin, puisque il y a cette notion-là qui n'y est pas.
Exactement. C'est vrai. C'est vrai que dans Pirkei Avot, on ne parlait pas de la pensée. Mais d'un autre côté, mais d'un autre côté, le fait même de savoir que Dieu te regarde, qu'il t'entende et qu'il te sonde.
Non, mais c'est-à-dire que la différence.
Ah, bon. Oui, oui, le plus.
Ça vous permet de réviser.
Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken, il te dit la chose suivante, il te dit que Dieu ne doit pas être quelque chose d'abstrait pour toi. Il faut te l'imaginer, te le matérialiser de la meilleure façon possible. Et encore une fois, aujourd'hui, avec les efforts et les révolutions technologiques qu'on a, on a beaucoup plus de facilité à comprendre ça. Et après, bon, dans ce commentaire du rabbi, il dit la chose suivante. Il dit comment, Mamash, on voit comment toutes ces révolutions nous ont aidés. Vous savez, c'est un commentaire qu'il avait sur Noar. Noar, en 77. Il a dit comme ça. Il a dit, vous savez, aujourd'hui, on sait, c'est écrit dans le Zohar, que l'origine de tout et la profondeur de tout objet, c'est la lumière. Maintenant, lorsque tu racontais ça à quelqu'un, à un juif, il y a 200 ans, il y a 300 ans, troisième. Tu sais, j'ai appris dans le Zohar que la table, c'est de la lumière. Il va dire, bon, Miskin, il me rend pour un fou. Il dit, mais il est fou, celui-là, quoi. C'est la lumière, elle est là, la table, elle est là. Lui, il voit une table ici, une lumière ici.
Il n'a pas la lumière à toutes les étages.
Il est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Mais aujourd'hui, avec la révolution qu'on a fait, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, d'accord, en physique, en chimie, etc. On sait, aujourd'hui, on sait pertinemment aujourd'hui que l'origine, et spécialement ça, la profondeur de chaque chose, c'est quoi finalement? Énergie. C'est un mouvement de molécules, d'atomes, etc. Donc c'est de l'énergie, ça. Et c'est quoi? Finalement, t'arrives à quoi à la fin? T'arrives à la lumière.
Ouais.
Alors, est-ce que le Zohar a dit le mot atome? Le Zohar n'a pas dit le mot atome. Mais ce que je veux dire par là, et je sais même pas si ce que les scientifiques disent correspond à ce que dit le Zohar, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit encore une fois, comment une révolution dans le monde, de la physique, de la chimie, etc., m'aide à mieux comprendre ce qui est écrit dans la Torah, et à mieux l'accepter. J'accepte ce qui est écrit, parce que je dis, oui, voilà, regarde, il explique comme ça me choque pas, donc ça me choque plus. Donc c'est exactement ce que tu dis à l'Admor HaZaken. Il te dit, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on se l'imagine comme quelque chose d'abstrait. Il veut qu'on s'imagine comme quelque chose de concret. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comment on appelle Akadosh Baruch Hu? On l'appelle Meler. Le roi. Pourquoi on appelle Dieu un roi? Parce que Dieu, c'est un roi.
Oui, c'est un roi.
C'est un roi? C'est quoi un roi?
C'est le patron, c'est...
Mais, attends. Un roi, c'est quoi un roi?
Quelqu'un qui a déjà payé. Est-ce
que Dieu, c'est un roi? Il a un pays? Comment il s'appelle, son pays?
La terre,
peut-être. Bah, prends l'appel roi. Appelle-le Dieu. Pourquoi tu l'appelles roi? Meler. Un roi, c'est un homme qui a un pays.
En fait, tout ce que tu nous racontes, c'est un peu borderline.
Non, je t'explique pourquoi on l'appelle roi. Pourquoi on l'appelle roi? Parce que, à l'époque, quand on s'imaginait la personne de laquelle on avait le plus peur, c'était qui?
Le roi.
C'était un roi. Aujourd'hui, on n'a pas peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un président. Et le président, il est nommé par qui? Par nous. Donc ça veut dire, en vérité, on ne peut pas avoir peur de lui parce qu'il n'a pas d'emprise sur nous. Il a une emprise qu'on a bien voulu, nous, lui donner.
C'est ça. On lui donne le pouvoir.
On lui donne un pouvoir qu'on peut lui reprendre quand on désire. C'est le peuple qui décide. Mais il faut bien comprendre qu'un roi, c'est pas comme ça. Un roi, il fait ce qu'il veut. Donc quand on voulait parler aux gens d'Akadosh Baruch Hu, on le voit dans le Alenu. Comment on appelle Akadosh Baruch Hu? Meler Malchei HaMelachim. Le roi des rois des rois. Ça veut dire qu'à l'époque, on savait qu'il y avait le roi. Il y avait le roi des rois. Le roi des rois, c'était comme j'aurais dit aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, tu vois. Enfin, c'est pas des rois, mais ça veut dire que le roi des rois. Alors, imagine-toi maintenant le roi des rois des rois. Ça, ça suffisait à l'époque pour faire décoller l'imagination de n'importe qui. Parce qu'il dit le roi, je le connais. Voilà, le roi de mon pays, je le connais. Mais imagine-toi que ce roi, il a un roi qui lui doit rendre compte. Et ce roi, il a encore un endroit qui doit rendre compte. Meler Malchei HaMelachim. Le roi des rois des rois. Juste, il décollait. Maintenant, pourquoi les sages, ils ont appelé Akadosh Baruch Hu Meler Malchei HaMelachim? Est-ce que Dieu est un roi? Est-ce que Dieu est le roi des rois des rois? Dieu n'est pas ça. Dieu, c'est Dieu. Seulement, c'est des images qu'on nous a données pour nous permettre de travailler avec notre imaginaire pour essayer de matérialiser le plus possible Akadosh Baruch Hu et le faire rentrer dans notre imagination. Que ce soit pas quelque chose d'abstrait. Que ce soit quelque chose qui rentre dans ma vie. De la même façon qu'un roi, je sais ce que c'est. Il faut que je sache ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Pas que je sais ce que c'est, qui sait ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Que je m'imagine, que je comprenne que c'est du sérieux.
Qu'il est tout en haut, que nous on est tout en bas.
Mais non, ça c'est le mieux ça. Ouais, voilà. Ah non, au contraire, c'est ce que je dis.
Mais finalement, comme il est tout en haut et nous on est tout en bas.
Non. C'est-à-dire que... À l'époque où le texte roi des rois des rois était écrit, d'accord, C'est une époque dans laquelle, je te garantis que lorsqu'on leur disait roi des rois des rois, ils savaient exactement de quoi on parlait. D'ailleurs, c'est pour ça. Lorsque le tsarisme s'est effondré en URSS, d'accord, et qu'il y a eu le communisme, il y a eu un chassid qui a pleuré. On dit, mais pourquoi tu pleures? Parce qu'on a effondré, parce que le tsarisme s'est effondré, mais tu sais les malheurs que le tsarisme ont fait. À l'époque, on croyait que le communisme allait être mieux. D'accord? Alors, il a dit, le tsar, il nous a tués, il nous a spoliés, il nous a tout fait. Elle a dit, c'est pas pour ça que je pleure. Je suis content qu'on s'est débarrassé d'un ennemi. D'accord? Je pleure parce que je me dis, comment maintenant mes enfants vont expliquer à leurs enfants la crainte qu'on doit avoir d'un Kadosh Baruch Hu. Moi, quand je voulais expliquer à mes enfants la crainte que je dois avoir d'un Kadosh Baruch Hu, je leur dis, tu vois le tsar? Imagine-toi que quelqu'un encore sur le tsar et encore. Il avait quelque chose de concret, comment s'imaginer?
Il y a une référence.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux te dire? Je vais te dire Macron.
C'est pas une référence.
Ben voilà. Comment je vais expliquer à mon fils aujourd'hui qu'il y a quelque chose, une entité de laquelle on a peur?
Micron.
Qu'est-ce que je vais donner comme exemple?
Emmanuel Micron.
Hein? J'ai pas d'exemple à lui donner. Donc c'est pour ça que là, particulièrement dans notre génération, on a besoin de faire appel à la Mishnah. Regarde, trois choses, il faudra passer. C'est quoi les trois choses? Un œil qui voit, une oreille qui entend, d'accord? Et tout est écrit. Et essaye de trouver le plus de termes possibles. Qu'il te regarde, il t'observe, il t'entend, il te scrute, il te voit. Tous les termes possibles. Ce qui compte, c'est que ton imaginaire décolle. Que tu comprennes que c'est du sérieux. Maintenant, il va poser une question très simple. Il va dire, mais quand même, tu es en train de matérialiser Akadosh Baruch Hu. Michael, je crois qu'il avait une question. Mais je pense que je vais toucher à ta question là.
C'est ça, voilà. C'est-à-dire que c'est, moi aussi je crois. C'est un peu borderline Herbou d'Azara.
Exactement.
On nous dit que Akadosh Baruch Hu, il est là, mais en réalité il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas, parce que nous on est à l'intérieur de lui.
Très bien.
Et on nous dit une autre chose, on peut, dans les 10 commandements il y a marqué, tu ne feras pas d'idole à mon image.
Très bien, très bien.
Et comme tu dis, il faut matérialiser Akadosh Baruch Hu,
est-ce que c'est pas dangereux?
J'entends.
Alors je vais
parce qu'on le réduit.
L'Admor HaZaken formulait ta question, mais un peu différemment. Et pour formuler ta question, il va utiliser un texte du Higdal. Dans Higdal, on dit comme ça. En lo demut haguf, ve'eino guf. Dieu n'a pas la forme d'un corps, et ce n'est pas un corps. Donc, puisque Dieu n'a pas la forme d'un corps, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de jouer avec le feu, quand on est en train de personnifier Dieu?
C'est-à-dire, quand on parle des cousins, tu vois, et de l'acrobate en particulier,
oui.
Quand je me mets dans son époque à son truc, je me dis comme ça, en réfléchissant bêtement, je me dis, puisque pour le servir et avoir conscience de lui, il faut un peu quelque part le matérialiser,
oui.
Et ben faisons un rassemblement des petits bouts de bois.
Oui, tu as raison.
C'est à peu près le même truc.
Comment
ça souffle.
Alors, ce qu'on va dire tout de suite. Donc il va dire, quelque part, dans une piste un peu différente, mais on va dans la même direction. Est-ce que, quelque part, c'est pas ici un problème? Tu es en train de me dire que je dois essayer de m'imaginer à Kadosh Baruch ou de le matérialiser le plus possible pour qu'il rentre dans ma vie. Que je comprenne que c'est du sérieux. Que de la même façon que la table, je la vois, il faut que Dieu, je le vois en face de moi. Que je le vois regarde dans les yeux, qu'il me regarde. Que je comprenne que c'est sérieux. C'est pas Stam, il est là, bon, abstrait, on sait pas. Peut-être non, j'ai rien à perdre, je lui demande, on sait jamais. Comme au loto. C'est du sérieux, il te regarde. Il voit tout ce que tu fais. Et il faut l'imaginer avec des notions concrètes, des notions matérielles. Et il pose la question. Des gammes qui en lo demutaguf. Je suis à la page 64, troisième paragraphe. Bien que Dieu n'ait pas d'apparence corporelle, et donc comment on peut comparer à Kadosh Baruch Hu? Comment on peut dire que Dieu il a un œil qui regarde, une oreille qui entend? Est-ce que quelque part c'est pas un problème de dire que Dieu il a un œil?
Puisque ça fait appel à notre propre...
Pourquoi tu personnifies?
Mais c'est pour nous donner, nous, une...
Alors, il te dit au contraire, regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il veut expliquer. Il dit, Adéraba, au contraire. Le fait que Dieu ne soit pas matériel, n'a pas de forme de corps, non seulement que c'est pas une lacune, mais au contraire, ça intensifie sa surveillance. Pourquoi? Regardez le raisonnement qu'il y a, comment il va retourner la situation. Adéraba! Akol galoui veyadoua lefanav, étant donné que Dieu n'est pas limité par un aspect matériel, donc tout est révélé et connu devant lui, les enquêtes, beyeter siècle, les enquêtes, infiniment bien plus que miriyata aïn ou shmiyata ozen aderech machal. Infiniment plus que ce que l'œil pourrait voir et ce que l'oreille pourrait entendre. Ça veut dire comme ça. Si toi, tu poses une question, tu dis, mais comment tu peux dire que Dieu, il a un œil? Comment tu peux dire que Dieu, il a une oreille? Dieu n'a pas d'œil, Dieu n'a pas d'oreille. Il n'a pas de forme de corps. Et tu dis, mais chacham, au contraire, ça amplifie ce que je viens de te dire. Parce que si tu dis que Dieu avait mamache un œil, forcément, ça veut dire que tu le limites par rapport à l'œil. Par exemple, moi, je vous regarde avec mon œil. Donc, ma vue est limitée par rapport à mon œil. Donc, si mon œil, par exemple, a la myopie, ou si mon œil a un certain champ de vision, donc, ma vue est limitée par rapport à mon œil, par rapport aux caractéristiques de mon œil. Mais imagine-toi maintenant que Kadosh Baruch Hu, sa vue n'est limitée, n'est pas limitée par quoi que ce soit, par aucun corps, par aucune forme. Donc, c'est encore pire. Parce que, quand, par exemple, je sais qu'il y a une caméra qui me regarde, elle a des caractéristiques.
Ouais, tu sors du champ de la caméra.
Je sais que la caméra, elle a un certain champ. Je sais qu'elle a des peaux, je sais qu'elle a ci, je sais qu'elle a ça. Donc j'apprends à la connaître, et après j'apprends à la déjouer. Parce qu'elle a des caractéristiques. Mais si on te dit maintenant, c'est quelque chose qui n'a pas de caractéristiques, qui est au-delà de toute caractéristique. Il te voit. Point barre. Il n'y a pas à où aller. C'est pas il te voit à condition qu'il a de la batterie, qu'il a de l'électricité, qu'il a du courant, qu'il a le champ. Il n'y a pas, il te voit. Point. C'est tout. T'imagines? C'est-à-dire que là, il veut t'expliquer le fait qu'on te dit que Dieu, on le dit qu'il a un œil, alors qu'il n'a pas d'œil. Au contraire, non seulement que c'est pas un problème, mais au contraire, ça veut dire que tu t'imagines, tu dis, l'œil, c'est juste pour que j'essaie de m'imaginer. Mais en vérité, dès que je réfléchis un peu, je comprends que c'est encore pire qu'un œil. Et alors, ça veut dire quoi pire qu'un œil? Et tu dis, il y a un exemple qu'on peut donner. Il y a des choses qu'on voit, et il y a des choses qu'on sent. Je vous donne un exemple. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui a mal au pied. D'accord? Ok, une blessure au pied. Il a une blessure, il s'est blessé, il est tombé. Il saigne. Ses yeux voient qu'il saigne. Mais il n'a pas besoin de voir avec ses yeux qu'il a mal.
Il le sent.
Il sent qu'il a mal. Ça veut dire que quelque chose que tu sens en toi, c'est beaucoup plus fort que quelque chose que tu vois ou que tu entends. Ça veut dire quand, par exemple, quelqu'un, il est tombé, il s'est blessé, il a mal. Il va pas te dire j'ai mal parce que j'ai entendu que je suis tombé et que j'ai entendu le bruit du coup. Il te dit j'ai mal parce que j'ai mal. Je sens que j'ai mal. Moi qui suis à côté, je suis pas en lui. Donc je dis ah, t'as dû te faire très mal parce que moi je vais mesurer l'intensité du choc par rapport au bruit et par rapport à la vue. Je dis oui, j'ai vu comment t'es tombé, j'ai entendu comment t'es tombé. Ça devait être violent. C'est-à-dire que moi qui suis extérieur, je vais analyser et quantifier l'impact par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Mais la personne elle-même qui ressent, elle a pas besoin de voir et d'entendre. C'est en elle. Eh ben, imagine-toi que si on pourrait, ça c'est l'exemple le plus poussé qu'on a chez l'être humain, pour s'imaginer comment Akadosh Baruch Hu sent ce qu'on fait.
Dans lui.
Il a même pas besoin de voir et d'entendre.
Dans les animaux.
C'est, non, c'est plus, c'est beaucoup plus.
Non. Ah, ouais. Un sens que nous on n'a pas.
Can you feel it?
Ouais, mais,
mais ça change pas. Oui, ça reste extérieur.
On connaît pas.
Ça reste extérieur. Non, ça reste un élément extérieur. Rien ne pourra s'apparenter à ce que je...
Le même sens.
Oui, mais...
Et nous, pour qu'on puisse entendre la présence de Dieu, on va entendre un tonnerre, par exemple. Tiens, ça, c'est Dieu.
Ils ont une observation plus évoluée, certainement. Mais il n'y a rien qui peut être plus fort que le fait que la personne, Margish Be'atzmo, qui se ressent sa personne. Ça veut dire que quand je ressens ma personne, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin d'entendre, j'ai pas besoin de voir.
T'as entendu.
J'ai même pas besoin de penser. Ça veut dire que j'ai pas besoin de penser, de dire, ah, comme je suis tombé, donc je dois avoir mal. T'as même pas besoin de ça. Lorsque je vois quelqu'un qui est extérieur à moi, j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de penser, de réfléchir, de dire, comme il est tombé comme ça, donc certainement qu'il a mal. Mais quand c'est en moi, j'ai pas besoin de m'expliquer que j'ai mal quand je suis tombé. Je sais tout de suite, instantanément, que j'ai mal. Sans le voir, sans l'entendre, sans rien, sans réfléchir. J'ai mal. C'est moi. Ça, c'est l'exemple le plus poussé qu'on peut avoir pour expliquer par rapport à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, le fait qu'on dit qu'il a un œil, c'est pas pour le brider. C'est parce que c'est plus qu'un œil. Je passe à la page suivante. Rak ou al derech machal. Le meilleur exemple qu'on pourrait donner pour expliquer, c'est un exemple évidemment. Comment à Kadosh Baruch Hu, sans ce qu'on fait, et qu'on peut pas lui échapper, que mo adam ayodea ou margish beatzmo, comme un homme qui ressent, et qui voit, et qui sait, en soi, kol ma shenaase venifal, tout ce qui se passe, et tout ce qui s'exerce, be'echad nikol rima revarav, dans chacun de ses 248 membres, que mo kor ochom, comme par exemple, le froid et le chaud. Exemple très simple, regardez. Imaginez le doigt de pied, l'ongle du doigt de pied. Imaginez que l'ongle du doigt de pied, vous brûlez avec du feu.
Ça fait mal.
Alors pourquoi ça fait mal? Est-ce que ça fait mal parce que j'ai vu qu'il y avait du feu? Est-ce que ça fait mal parce que j'ai entendu qu'il y avait du feu?
Tu le sens.
Est-ce que ça fait mal parce que j'ai pensé que le feu, ça fait mal? T'as pas besoin. Que ce soit une blessure qui soit dans ta main, dans tes pieds, dans ton doigt de pied, c'est en toi. Et peu importe le membre. C'est-à-dire que le membre peut être... C'est pour ça qu'il y a cet exemple. Le membre peut être le plus loin possible, parce que quand je m'imagine moi, ce qui est le plus loin possible en moi, c'est quoi? C'est l'ongle du doigt de pied. Ça, c'est ce qui est le plus bas en moi, ce qui est le plus loin. Non, ouais. Mais peu importe, ça peut être le plus loin qui est en toi. Quand l'ongle du doigt de pied, il essaie de te faire mal, par exemple avec le feu, ou bien simplement parce que tu as un ongle incarné, d'accord, tu le sens bien. Tu n'as pas besoin de t'expliquer que ça fait mal. Tu n'as pas besoin de te l'expliquer. Ça fait mal, point barre. C'est-à-dire, je sens que j'ai mal à la tête, je sens que j'ai mal au pied. J'ai pas besoin de me l'expliquer, c'est automatique. C'est en moi. Donc vous comprenez que... Exactement. Donc là, ça c'est un exemple parfait de seconde. Il faut que j'arrive au bout du raisonnement. Je suis désolé. Il faut que j'arrive au bout du raisonnement. Donc, vous comprenez que ça c'est un exemple parfait. C'est certainement. C'est un exemple parfait pour t'expliquer quoi? Pour t'expliquer, pour te dire la chose suivante. Pour te dire, imagine-toi par exemple que tu as mal au pied. T'as un ongle incarné au fond du doigt de pied comme ça. Et tout le plus loin possible de toi. Est-ce que tu peux faire comme si qu'il n'existe pas? Tu peux pas. Tu peux dire non, mais j'ai pas vu, j'ai pas entendu, je réfléchis pas, fais comme si qu'il y a pas. C'est pas possible. Parce que tu le sens, c'est en toi. Alors c'est la même chose. Est-ce que tu crois que tu peux cacher quelque chose à Kadosh Baruch Hu? Allez, disons que tu fais le malin. Tu dis, je vais lui cacher les yeux. C'est pas possible. Il sent.
Mais ça, on le sait, ça, c'est...
D'accord? Oui, mais ça, c'est une façon d'illustrer. Ça veut dire, tu comprends, pour dans la tête de beaucoup de gens, comme l'a dit David tout à l'heure, il a dit que, il n'a pas dit ce qu'il pense, il a dit ce que les enfants disent. Dieu, il est tout en haut. Ah, il y a une caméra, de temps en temps, il regarde la caméra, et quand on a trop abusé, il dit, bon, eh oh, les enfants, on reprend. On l'imagine, tu vois, comme un gardien qui est là, il a plein de caméras partout, et il espère, tu vois, et à un moment, quand on a abusé, bon, il fait un peu du muscle. Mais non! C'est pas ça, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il t'observe tout le temps, et il a même pas besoin de, tu peux pas lui échapper parce qu'il te sent, toi.
Et tu n'es pas un numéro.
Et tu n'es pas un numéro.
Donc ça veut dire, s'il te sent, ça veut dire que ça implique une réaction.
C'est prisonnier, ça.
Ça, c'est une autre question. Je retenais pas dans cette question, est-ce que ça implique une réaction? Déjà, ce que ça implique, que je comprends que c'est du sérieux. Maintenant, je comprends, est-ce que je le comprends ou pas? Je sais pas si je le comprends. Mais en tout cas, j'ai un effort à faire pour y penser. Sérieusement.
Pour m'en souvenir tous les jours.
Pour m'en souvenir, constamment. Et s'imaginer avec des notions concrètes, physiques. C'est pas grave. Pas de problème. Ce qui compte, c'est que tu comprends que c'est du sérieux, ça rigole pas.
Finalement, c'est ça le libre arbitre, alors. C'est l'oubli de cette conscience, alors.
Ah oui. Parce que la conscience, on l'a déjà, qu'on explique au début du cours. Elle est au fond de moi.
Elle est au fond.
Elle est au fond de moi. Révélée. Mais c'est un trésor enfui. Otsar, Shalira, Shama, rappelez-vous le cours la semaine dernière. Un trésor de crainte de Dieu. Seulement, le problème, c'est que ce trésor, ça reste un trésor. Un trésor qui est au fond. Ouais, un trésor. Probablement que si je prends ici toute la rue, il doit y avoir des trésors en dessous. Peut-être qu'il y a de l'eau. Peut-être qu'au fond, à 10 km d'ici, il y a une mine d'or. Peut-être, c'est possible. Possible, non?
Pétrole.
C'est possible. Peut-être qu'à 10 km en dessous de nous, il y a peut-être une mine. Vous savez qu'il y a des trésors partout. Seulement le problème, c'est que ça coûte tellement cher de chercher qu'on cherche où on pense sur les deux. Voilà, l'exploration. Partout. Partout. Il y a des trésors partout. Partout. Il suffit de les chercher. Et avec ça, on n'est pas sûr de trouver. Mais nous, on est sûr de trouver.
Et parfois, le trésor est à côté de toi et tu vas le chercher très loin.
Oui.
De Paolo Coelho.
Dans la Torah.
Les gaz de schiste.
Oui, alors maintenant Joseph avait une question, une remarque.
Les avions renifleurs. Souviens des avions.
Un mot.
Moi je rebondis.
Les avions renifleurs.
Ah, il veut rebondir.
Ce que je disais, c'est que le ressenti du membre manquant. Imaginons quand on coupe un pied, un bras, un machin. Ou que tu nais sans.
Dis pas tu nais.
Oui, il nais. Ou une personne nais. Eh bien, régulièrement, elle va se souvenir de ce membre-là, et pourtant il n'existe plus.
Oui, non, mais là tu parlais.
Donc on est dans le ressenti, là.
Non, mais là je parle pas de ça. Là je parle du ressenti d'un membre qui existe, qui est là.
Non, mais ça,
parce que d'accord. Dieu, il me ressent comme un homme existant.
On ne peut pas d'accord, faire abstraction, en fait.
D'accord, mais la question qui vient, c'est-à-dire que tu as le membre existant, et qu'est-ce que t'en fais de ce membre existant?
Je vais expliquer ce que je veux dire. Non, je vais aller plus loin.
Qu'est-ce que t'en fais?
Regardez. Imaginez, par exemple, que vous sortez dehors, comme ça, comme vous êtes maintenant.
Voilà.
Il fait froid.
Bah, forcément.
Donc vous allez avoir froid.
Tu relèves ton col.
Une seconde, écoutez bien ma question. Pourquoi vous allez avoir froid? Est-ce que vous allez avoir froid parce que vous avez une application dans votre téléphone dans laquelle c'est écrit que dehors maintenant il fait, je sais pas, il fait 10, 11 degrés. D'accord? Ou peut-être un peu plus, je sais pas. Donc comme vous avez vu dans l'application qu'il fait 11 degrés et que vous savez qu'à 11 degrés l'être humain a froid et que vous savez que vous n'avez pas de chemise, donc vous arrivez à une conclusion, c'est un ordinateur. Vous vous dites certainement que je dois avoir froid maintenant.
Oui, j'ai entendu.
Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, il faut aller consulter, sinon. Parce que vous n'avez pas besoin de ça. Vous sortez, il me dit j'ai froid. Le bébé, il n'a pas besoin de. Il sait qu'il a froid.
Non, mais je relâche.
Alors, il pleure, l'autre, il comprend, mais il a froid.
Je me mets à relâcher.
Le corps,
il sent que t'as froid.
Le corps, il se met en.
C'est pas que tu sais que t'as froid, tu sens que t'as froid.
Oui, il y a un sentiment de froid.
Vous comprenez? Ça, c'est la différence entre un savoir et un sentiment.
Froid dehors et chaud dedans.
C'est ce qu'il veut expliquer ici. C'est-à-dire qu'il y a le savoir et le sentiment. Un savoir, c'est quelque chose avec lequel on peut jouer. Il y a un savoir. Est-ce que la NSA peut sentir ce que j'ai en moi? Elle peut voir ce que j'ai. Elle peut entendre encore ce que je viens de lui montrer. D'accord? Mais personne ne peut me sentir. La seule personne qui peut me sentir, c'est moi. Personne. Personne au monde peut te sentir comme toi tu te sens.
Exactement.
Même une personne qui t'aime, même ta femme, ton fils, ton père, ta mère, etc., qui tu veux, il t'aime. Donc il va peut-être essayer de se mettre à ta place, etc. Mais personne va te sentir comme toi tu te sens encore.
Impossible.
C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah Hergesh Atzmo, le ressenti de soi-même. Ça, c'est le niveau le plus élevé qu'a chez une personne, le ressenti de soi-même.
Les médecins, ils te disent, il faut savoir écouter son corps. Justement.
Oui, exactement, parce que le corps, il nous donne beaucoup de messages. Maintenant, revenons à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, regarde. Quand tu dis que Kadosh Baruch Hu, il a un œil qui regarde. Ça tu ne le limites pas. Il n'a pas d'œil, Kadosh Baruch Hu. Mais c'est encore pire s'il n'a pas d'œil. Parce que s'il avait un œil, ça veut dire que le regard est extérieur. Donc ça veut dire que comme le regard est extérieur, tu peux jouer avec ça. Mais chez Dieu, ce n'est pas un œil qui regarde par l'extérieur. C'est un œil qui sent. Donc tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est pas un regard extérieur, c'est un regard de l'intérieur. On continue. Ok, Ein yedi azo al derech machal. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que Dieu nous sent comme je sens mon pied, parce que on peut pas définir comment Dieu est. Mais c'est un exemple. Et on n'a pas peur d'utiliser les exemples. Vous savez, il y a un texte qui dit Mibsari et Chese Eloka. De ma chair, je vois Dieu. C'est-à-dire que ne pas hésiter à utiliser des métaphores,
c'est ça.
D'accord, pour essayer de s'imaginer. Combien de fois dans la Torah, par exemple, on voit, j'explique tout de suite, combien de fois, par exemple, dans la Torah, on voit que dans la Torah, on nous parle de la main de Dieu. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, avant de faire la libération d'Égypte, il a dit, je vais vous faire sortir avec une main forte et avec un bras étendu. C'est quoi la main forte? Dieu, il a une main, mais un bras. Et Dieu il dit à Moshe, PLP, bouche à bouche, je lui parle.
Panim,
la bouche, tu as une bouche. C'est écrit, Vaishma Hashem, c'est écrit Hashem a entendu. Parashat Bereshit, Parashat Noir, Parashat Shemot.
Ça va pas d'avoir d'oreilles si.
Vaishma Hashem, Hashem a entendu. Est-ce que Hashem a des oreilles? Vayar Hashem, Dieu a vu, c'est écrit aussi. Vayar Hashem, Dieu a vu ce que Adam a fait. Il a dit Ayeka, où tu es? Vayar, il a vu.
Il a vu?
Il a des yeux? Alors encore une fois, Rashi explique. Il dit évidemment que d'abord Dieu voit et entend évidemment. Mais tous les termes que la Torah utilise, elle parle dans le langage des hommes. C'est-à-dire qu'un homme, pour comprendre qu'on l'a observé, il faut qu'il s'imagine un œil. Donc il s'imagine Dieu avec un œil. Qu'est-ce qu'il y a?
Pourtant, on s'imagine vraiment qu'il a parlé à Moshe.
Quoi?
Comment il a parlé?
Il a dit à Moshe,
il a parlé
à Dieu. Moshe a entendu une voix.
Bah oui. Ils n'ont pas eu une discussion de verra.
Moshe a entendu une voix.
Mais pour pouvoir communiquer avec Moshe, il a fallu emprunter les sens de Moshe.
C'est quoi Vaïdaber? C'est quoi Vaïdaber? Daber, c'est une parole. C'est quoi une parole? Une parole, c'est une expression. Donc il y a une expression de Dieu, une expression de Moshe. Je pense que l'expression est avec des mots. Mais c'est pas forcément que Dieu a parlé. Dieu a fait en sorte que Moshe a entendu un message.
C'est ça.
Maintenant, Dieu n'a pas de bouche.
C'est le récepteur.
Grand, Dieu n'a pas de bouche.
On peut dire qu'il a prophétisé.
Là, encore une fois, on a un exemple. Quand par exemple je t'appelle au téléphone, David, je vais t'entendre au téléphone. Mais c'est pas toi que je vais entendre. Je vais entendre une membrane qui va reproduire le son de ta voix. Ça veut dire que cette membrane, toi de ton côté quand tu vas parler au téléphone, t'as une membrane, maintenant c'est numérique aujourd'hui, t'as une membrane qui va capter le son et qui va le transformer en signal numérique. Et ce signal numérique va être transféré par des ondes, en haut, d'accord? En haut, partout. Et ces ondes vont arriver dans mon téléphone et elles vont être retransformées dans une membrane qui va reproduire ta voix. Et moi je vais dire, j'ai entendu David! Non?
Même ça a été reproduit d'une.
J'ai pas entendu manière. David. J'ai entendu une membrane. J'ai entendu une membrane qui a reproduit une voix.
Pour ça qu'on peut pas.
Ça s'appelle une voix.
Hein? Voix. J'ai pas entendu David. Mais je l'ai entendu. J'ai pas entendu David.
Ici la voix.
Ah, si tu m'as entendu.
Non? Ici la voix. J'ai pas entendu David.
J'ai entendu une reproduction de David.
J'ai entendu quelque chose qui a reproduit la voix de David. D'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de lire la Megillah, etc., de faire avec le micro. Parce que le micro reproduit la voix. C'est pas la voix du Chazan.
C'était toi, d'ailleurs, qu'on a laissé.
C'est assez différent déjà.
Pas compris.
Qu'on n'est plus là et qu'on a des enregistrements de nous, ça veut dire qu'on continue d'être là. Explique-moi.
Par exemple, podcast de David.
Voilà.
Un podcast
ou
de David.
Ou d'artistes qui ont disparu. J'écoute, oui. C'est-à-dire ils sont là.
Il n'est pas là.
C'est ma voix.
Mais
t'es pas là, mais t'es où?
Je suis obligé d'être là.
C'est pas ta voix, c'est une reproduction de ta voix.
Et qu'on sait qu'il y a un million de personnes. D'accord,
David. Est-ce que tu sais que tu connais pas ta voix?
Non. On peut pas.
Souvent, quand je réponds au téléphone, je dis « Allô, oh, t'as la voix de ton père. »
Non, écoute-moi ce que je veux dire. Est-ce que c'était déjà arrivé de t'enregistrer au téléphone et de t'écouter?
Il y en a qui n'aiment pas écouter.
Et quand tu t'écoutes, tu vois que t'as pas la même voix que tu vas savoir.
C'est pas moi qui parle, tu vas te dire.
Tu sais pourquoi? Parce que quand tu parles, tu t'écoutes par la voix de l'intérieur. Alors que quand tu t'écoutes par un enregistrement, il y a pas la voix de l'intérieur. Donc tu t'écoutes, tu dis mais c'est pas ma voix.
Je préfère pas.
Ça veut dire que David, la voix que t'es en train d'écouter, c'est pas la voix que moi je suis en train d'entendre. C'est fou, non?
Donc si on veut corriger.
Et ça, avec ça, c'est du réel, c'est du concret.
Ça, c'est du réel. Ça.
C'est vrai que quand tu écoutes ta voix, c'est compliqué.
Ah oui,
tu te trouves plein de défauts.
Ah oui.
C'est pas ma voix. T'as
une grosse voix.
C'est pas moi, ça.
Pas moi, ça.
Non, il a du mal à l'enregistrer, il y avait un truc devant.
Ouais, mais tu vois, nous, par exemple, si je t'écoute, là, ta voix, même ta voix à toi, t'as une autre voix.
Quand je t'écoute. C'est ça.
Une voix un peu différente.
Après, c'est la façon dont c'est
dans l'enregistrement. Ça dépend du produit.
Il faut de la haute fidélité.
Il faut de la haute fidélité. Non, parce que normalement, un bon enregistreur,
souvent quand j'ai écouté les autres produits,
il enregistre parfaitement.
Là, tu trouves des défauts. Quand tu écoutes ta propre voix.
Ah ouais.
Ok.
Parle trop vite, on n'articule pas assez.
Alors, on continue. Donc, il dit Vechen ma'utam ve'atzmutam. Je suis en bas de la page 165. Tout ce qui se produit dans mon corps, mes mains, mes pieds, ma tête, mon cœur, je le sens. Je tourne la page. Ou d'une connaissance semblable à la connaissance de l'homme qui se connaît. Dieu sait, évidemment c'est une allégorie, il sait tout ce qui se passe et tout ce qui intervient. Bechol an Ibrahim, dans toutes les créatures, et Lyonim vetartonim, supérieur et inférieur. Liot kula mishpamine de barer, puisque tous viennent de Dieu. Que moi je crée tout comme il est écrit. Kimimera akol, car tout vient de toi. Alors là c'est intéressant. On dit pas que tout vient de Dieu dans le sens que bon, il y a un Dieu, il a créé, maintenant on est des créatures indépendantes. Non!
On est toujours liés.
Kimimera akol, ça veut dire que tout est de toi, en toi. Donc moi je suis en Dieu. Donc, de la même façon que j'ai pas besoin de t'expliquer à ma main ce qui se passe, elle le sent, et mon corps sent, et ma tête sent. Dieu n'a pas besoin qu'on lui explique ce que j'ai fait, il le sent.
Je reviens d'un cours d'il y a...
Il y a quelques
années, où on parlait que le mal, le vrai mal, il venait aussi...
Bien, tout vient de Dieu, bien sûr. Bien sûr. Et là, maintenant, si vous voulez, il va nous donner des preuves, pour montrer que c'est pas le problème de le dire, et que Maïmonide en a parlé, que les maîtres de la Kabbalah en ont parlé. C'est pas un concept nouveau, ce qu'on entend dire ici. Quelque part, la personnification de Dieu. C'est pas un concept nouveau, c'est un concept réel. Seulement, attention, on n'est pas en train de dire que Dieu a un œil. Qu'on soit clair. On est simplement en train de dire que pour t'aider à t'imaginer, tu vas t'imaginer un œil. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que l'œil. Des chez Neymar. Et avec ça, on va comprendre ce qui est écrit au milieu de la page 66. Vegam kolayetsur lonichad mimeka. Ça, c'est dans la liturgie de Rosh Hashanah. Vous avez dans les mots? Avec nous, David.
Je suis pas loin.
Ah, t'es pas loin, c'est ça. Bon.
Non, je suis là, t'inquiète. Je sais pas si je dois encore tourner
là. De l'inimal. Zéou, je sais qu'à tout ce qui est écrit, dans la liturgie de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? On dit Gam kol ayetsur lo nichad mimeka. que toute la création, rien de ce qui a été créé, ne peut être caché de toi. Rien. C'est pour ça qu'on le sait à Rosh Hashanah. Parce que quel est le but de Rosh Hashanah ? Rosh Hashanah, le but, c'est de comprendre que Dieu est notre roi. Donc c'est pour ça que toute la liturgie de Rosh Hashanah va dans cette direction. Encore faut-il comprendre la contradiction. Mais toute la liturgie de Rosh Hashanah va dans ce sens. Essayez de s'imaginer comment Dieu est un roi, comment Dieu, on peut rien le cacher. Et il te dit, Okumo Shekata Varambam, ainsi que l'a écrit Maïmonide. D'accord ? Il a écrit dans les lois des fondements de la Torah. C'est au tout début de son ouvrage Mishneh Torah. Veiskimu Lazer Rachma Kabbalah. Et les maîtres de la Kabbalah sont d'accord avec ce que dit Maïmonide, qu'on va dire tout de suite. Que Moshe Katav Aramak Bepardes, comme le rabbi Moshe Cordovero l'a écrit dans le Pardes. Pardes, donc c'est son commentaire de Kabbalah, un des plus grands commentaires de la Kabbalah. Qu'est-ce que dit là-bas le Maïmonide? Ça veut dire qu'on, c'est quand même intéressant, parce qu'on a ici un sujet qui est écrit dans la liturgie, d'accord, qui est écrit par Maïmonide, que même les maîtres de la Kabbalah sont d'accord, ça, tout le monde est d'accord avec lui. Ils sont d'accord avec quoi? Écoutez bien ce que dit Maïmonide. En bas de la page 166. Regardez, c'est vraiment court. Shebiyidiyat atzmo kaviyachol, que Dieu, en se connaissant lui-même, yodea kol anivraim amitat imatzo, il connaît toutes les créatures, étant donné que leur existence procède réellement de son existence. Ce que dit Maïmonide. C'est-à-dire, Maïmonide dit comme ça. Il dit à Kadosh Baruch Hu, n'a pas besoin de chercher une information.
Elle est en lui.
Elle est en lui. Biediat atzmo, en se connaissant lui-même, il te connaît. Parce que tu es lui et il est toi. Non, c'est pas bon de dire c'est le créateur. Parce que regardez. Non, je m'excuse, mais je reprends pour ça. Vous comprenez pourquoi je... Non, c'est pas vous.
Oui, j'ai compris.
Regardez. Par exemple, vous avez une personne qui est le créateur de ce produit. Qu'il connaît mieux que moi et mieux que tous. Il sait exactement comment ce produit fonctionne. Il sait exactement que c'est un iPhone. Il sait exactement tout ce qu'il y a dans les méandres et tout ce qu'il y a dans les moindres choses qu'on connaît pas. Vous savez, par exemple, que les premiers iPhones, ils avaient une puce radio à l'intérieur. Mais qui était, et les ingénieurs le savaient. Bon, peu importe, je ne rentre pas dans la question. Maintenant, tu vas dire, voilà, c'est le créateur. C'est le créateur, il connaît parfaitement son produit mieux que tout le monde. Mais même si c'est le créateur, il sait ce qui se passe dans le produit, mais il n'est pas le produit. Donc, il a un regard extérieur, qui est un regard peut-être très approfondi, qui est un regard qui est vraiment de très fin et expert, mais ça ne va pas plus loin. Il n'est pas le produit.
C'est le sujet.
Donc, en vérité, l'homme ne crée pas. L'homme façonne. Il ne crée pas. Lorsqu'on dit que Dieu est le créateur, c'est pas seulement qu'il a créé un objet et qu'il reste détaché de l'objet. Dieu, il crée un objet et c'est l'objet. C'est lui l'objet. Donc il n'y a rien qui peut lui échapper. C'est même pas qu'il a besoin d'aller chercher une information. C'est ce que dit Rambam, c'est ce que dit Rabbi Moshe Cordovero. Il te dit Dieu, en se connaissant, il te connaît.
Parce que finalement, c'est une extension de lui.
Hein? Non?
C'est une extension.
C'est même pas une extension.
C'est
une partie de lui.
On est introspectif.
Est-ce que ton doigt de pied est une extension de toi?
C'est ça qu'il veut, non?
C'est moi!
Il veut la perfection.
Est-ce que ton doigt de pied, c'est moins toi que ton corps, que ton cœur? Non, c'est moi! Voilà. Ça veut dire que je peux être le plus grand rachat, Chas V'Shalom. Peu importe, tu peux être le petit doigt de pied.
Il n'est pas détaché de la création.
Exactement. Donc Dieu n'a pas besoin d'aller chercher une information. Parce que quand tu cherches une information, tu peux la trouver ou ne pas la trouver, ou tu peux te cacher aussi. Quand je sais qu'une personne qui vient chercher une information, je peux essayer de me cacher de lui. Mais là, il n'y a pas cette notion de recherche. Parce que Dieu sait ce que tu fais en te sentant. Donc il n'y a rien à faire. Rak seulement. Page 267. Shemashalze eino elak le shacher et haozen. Il va aller plus loin maintenant. Il dit, nous on croit que ça y est, on a touché le fond là. On a dit que voilà, Dieu c'est pas seulement qu'il nous voit, pas seulement qu'il nous entend, mais carrément il nous sent.
Waouh.
Il nous sent. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que sentir? Il dit, même sentir, on dit Dieu nous sent. C'est l'exemple le plus poussé qu'on a pu trouver avec notre imagination, avec les limites de notre cerveau. Les shacher et haozen. C'est un exemple qu'on a trouvé pour apaiser l'oreille. Ça veut dire pour que l'oreille puisse entendre quelque chose. Parce que l'oreille, il faut que mon oreille entende quelque chose qu'elle puisse au moins s'identifier, qu'elle puisse comprendre. Donc on a cherché l'idée la plus raffinée qu'on a trouvée. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bon, sentir. Mais en vérité, Dieu sait encore plus que ça. Pourquoi? Kinefesha Adam. Afilu asichlit ve'elokit. Car l'âme de l'homme, même l'âme intellectuelle et l'âme divine, je parle pas de l'âme animale, très intéressant ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit, vous savez, dans notre corps, on a trois âmes. On a l'âme divine, l'âme intellectuelle qui nous permet de réfléchir et l'âme animale. L'âme animale, c'est tout l'aspect animal qui est en nous. Je mange, je dors, je bois comme un animal. L'âme intellectuelle, c'est l'aspect humain que j'ai, que tout le monde a, même les goyim. Ils ont un aspect humain. L'homme, il réfléchit, il parle, etc. C'est non seulement qu'il mange et qu'il dort, mais il a un aspect intellectuel. Il y a l'âme divine. Maintenant, ces trois âmes sont habillées en moi. Les trois. Et donc, et c'est là le point de différence avec Dieu. Étant donné qu'elles sont habillées en moi, automatiquement, elles sont sensibles à ce qui arrive au corps. C'est-à-dire comme ça. Imaginez par exemple que je me fais mal. Je tombe par terre, je me fais mal, Chassé Shalom. Qui a mal? Mon âme animale a mal, c'est sûr. D'accord. Mon âme intellectuelle a mal aussi. Parce que, étant donné qu'elle est habillée dans le corps, donc forcément elle est sensible à ce qui se passe. Et l'âme divine aussi a mal. Imaginez par exemple, Chassé Shalom, que j'ai fait une avéra. Qui a mal? Tout le monde a mal.
L'âme divine.
Ah non, le corps quand même, il le sent pas, le corps.
Faux. Non. Tout le monde a mal.
Tout le monde a mal. On va le savoir finalement encore.
Il y en a un qui sent plus, l'autre qui sent moins. Mais tout le monde a mal. Tout le monde l'âme divine. Pourquoi tout le monde a mal? Parce qu'elle est habillée en toi. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez par exemple que je suis habillé d'un costume. Et que dans tout ce costume j'ai une chemise. Et qu'en toute cette chemise j'ai un tricot. D'accord, etc. Enfin un talit, un tricot. Et que je tombe par terre violemment, et que je me blesse, d'accord, c'est Shalom, et que tous mes vêtements sont déchirés jusqu'à ma peau. Qu'est-ce qui s'est déchiré? Tout. Ma peau s'est déchirée, le vêtement s'est déchiré, tout s'est déchiré, parce que il fait partie de moi, je me suis habillé. Imaginez maintenant que l'âme est à l'intérieur. Donc tout ce qui m'arrive, mon âme le ressent, et c'est pas seulement qu'elle le ressent, c'est qu'elle est sensible à ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il se passe quelque chose dans l'âme divine, l'âme animale le ressent. L'âme animale, l'âme divine le ressent, et vice versa, dans tous les sens. Âme intellectuelle, tout le monde le ressent. Ça, c'est la différence qu'il y a avec Dieu. Pourquoi? Parce que on peut pas dire que Dieu est sensible à ce qu'on fait. Dans le sens que si je fais une mitzvah ou si je fais une avéra, je peux modifier quelque chose en Dieu. Je peux faire mal à Dieu. Je peux pas faire mal à Dieu. Et c'est là que l'intellect s'arrête. Parce que je comprends pas. Si tu me dis que je fais partie de Dieu et que Dieu me ressent comme je ressens mon doigt de pied, quand j'ai mal, ça modifie quelque chose dans mon corps. C'est pas que le doigt de pied qui est modifié, c'est le corps entier qui est modifié, qui a mal. Le corps a mal. Alors, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, quand je fais une avéra, je fais mal à Dieu? Ça, non. Et c'est pour ça qu'il te dit que l'exemple a ses limites. C'est-à-dire, l'exemple le plus poussé qu'on a pu trouver, c'est le fait que l'homme se ressent, mais c'est un exemple qui a ses limites. Parce que concrètement, dans l'exemple, quand tu dis que tu te ressens, c'est-à-dire forcément, il y a un impact. Et que tout ce qui arrive au corps est ressenti par le corps. Or Dieu, et donc a un impact, change quelque chose. Or on le dit dans le Adon Olam. Adon Olam, Hashem Malam, Beterem Kol, Yetzir Nivra. Le Adon Olam, vous savez, c'est incompréhensible, hein, je vais vous traduire. On dit que Kadosh Baruch Hu a régné avant que toute créature se crée. Il a régné sur qui alors?
Sur sa nature.
D'accord, c'est Adon Olam, je vais juste commencer la première phrase. Adon Olam, Hashem Malam, ne l'endormez pas avec la chanson. Beterem Kol, Yetzir Nivra. D'accord, je continue. Il est dans la Nivra. Et même une fois qu'il a tout créé, Levado Imlochnora, il règne tout seul. Pourquoi il est tout seul? Et moi je suis quoi moi? Attends, l'âme. Vehu aya, vehu ve. Il est. D'accord, il est, non, il était. Il est. Vehu yé, et il sera. Petit phara dans la beauté, il reste le même. Ça veut dire, comme disent les commentaires, ça veut dire que la création du monde n'a rien changé en lui. Ça n'a rien changé. Tu veux quoi? Il n'y avait pas un monde, il y en a?
Pourquoi la création?
Non, c'est une autre question, je ne comprends pas ma question. Non, est-ce que la création du monde a changé quelque chose en Dieu?
Non.
Non. C'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Il n'y avait pas y avait. Il n'y avait pas y a.
Donc si je tombe, il n'a pas mal.
Donc ça, vous voyez, ça, c'est là que, dit Maïmonide, ça c'est quelque chose que le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre. Parce que dans notre cerveau humain, la façon comment il est conçu, c'est que forcément il y a une création. Et s'il y a une création, c'est il y a un créateur et une créature.
Il y a un avant et un après.
Il y a deux éléments.
C'est
obligatoirement. Et même si tu vas me dire que, même l'exemple le plus poussé qu'on a trouvé, de dire que Dieu se ressent, mais quand même, si tu dis qu'il se ressent, ça veut dire que forcément j'ai un impact sur lui. Or, j'ai pas d'impact sur lui. Ça, c'est la limite. Mais ça ne change pas que même si Dieu me dépasse, je dois quand même essayer de trouver des idées. Pour essayer de m'imaginer concrètement qu'est-ce que ça veut dire que Dieu me regarde.
Des analogies, en fait.
Voilà. Et on fait que commencer. Quand on va continuer encore la semaine prochaine, pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire et concrètement, quel id bonenout on attend de nous? Quelle réflexion on attend? Donc là, déjà, on a quand même bien avancé aujourd'hui.
C'est quoi le but? Puisque s'il n'a pas changé, même s'il a été...
Non, mais, il faut pas perdre le fil du cours.
Le fil du cours,
c'est qu'on veut que tu t'imagines que Dieu te regarde et que tu ne peux pas lui échapper.
Non, mais d'accord.
Voilà, c'est tout.
On est clair.
Mais ce n'est pas simple que tu sais au fond de toi.
Oui, mais alors, il recherche quoi? La perfection?
Vous savez, une fois, l'Admor Hazaken, j'ai expliqué.
La Torah, elle sert à quoi?
Non, mais d'accord.
L'Admor Hazaken, je crois que c'est l'Admor Hazaken. Il était, je vais vous raconter une histoire pour répondre à la question.
C'est quoi l'Ibbut?
L'Admor Hazaken, il était chez son maître. L'Admor Hazaken, il n'est pas né dans une famille racidique. On va terminer avec ça. Je vais juste répondre à la question. L'Admor Hazaken n'est pas né dans une famille racidique. Et donc, il s'est marié, et après, il a entendu parler du Magid Mezerich, et il a demandé à sa femme l'autorisation d'aller voir le Magid Mezerich parce que c'était une nouvelle approche, il était intéressé par ça. Il est parti voir le Magid Mezerich. Il est revenu 9 mois plus tard. Il a demandé l'autorisation à sa femme. Évidemment, sa femme lui a dit, vas-y, prends le temps qu'il faut pour essayer de bien analyser, etc. Soit à l'époque, le voyage, ça prenait un mois. D'accord? Et il revient 9 mois plus tard. Son beau-père lui pose la question. Il lui dit, bon, très bien, t'as laissé ta femme pendant 9 mois. Alors, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as appris? Il dit, j'ai appris que Dieu existe.
Ah, je t'ai juste...
Alors, il a appelé la servante, une jeune orpheline, juive. Il lui a dit, dites-moi, j'ai oublié son prénom.
Dieu existe?
Il lui a dit, dis-moi, est-ce que Dieu existe? Elle a dit, mais bien sûr que Dieu existe. Tous les jours, j'y pense, chaque seconde, je pense. Et alors, tu vois, elle n'a pas fait 9 mois d'études, elle le savait déjà. Alors, t'es parti 9 fois, t'as laissé ta femme 9 fois pour ça? Beau-père, d'accord. Il a dit, non, c'est pas la même chose. Il a dit, elle le dit. Moi, je sais. Moi, je comprends. J'ai pris 9 mois pour essayer de comprendre ce que ça veut dire que Dieu existe. C'est la même chose. Ça veut dire, Dieu existe. Bien sûr que Dieu existe. Mais est-ce que concrètement je le sais? C'est-à-dire je le sais et je l'intériorise comme quelque chose de concret que j'ai en face de moi. Que là j'ai un verre devant moi, le verre je le connais, je le touche, je le parle, il est là. Je ne peux pas lui échapper, il est là. Je ne peux pas dire il n'y a pas de verre. Il y a un verre, il est devant moi. Est-ce que je sens le regard d'Akadosh Baruch comme ça aussi? Je ne peux pas lui échapper, il est là. Si on arrivait à ce niveau-là, on n'aurait jamais pu faire de
verre. Regarde le verre, Michel.
Non, mais j'ai compris, mais il veut une reconnaissance collective. C'est ça qu'il veut.
Quoi?
Est-ce qu'il veut une reconnaissance collective?
Non!
Ah, il les a tous créés.
Il veut pas. Vous touchez une autre question.
Pas tout seul.
Akadosh Baruch Hu, il veut juste qu'on sache qu'il est là.
J'ai compris, mais pas tout seul.
Mais, excusez-moi, vous touchez une autre question, qui n'est pas le thème. Non, je comprends, parce que pourquoi il a créé le monde, c'est une autre question. Ma question n'est pas pourquoi il a créé le monde. Ma question est qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire en sorte que cette crainte de Dieu qui est au fond de moi ne reste pas enfuie au fond de moi, qu'elle soit dévoilée. Je dis, il y a une seule possibilité, c'est id bonenout, la réflexion. Réflexion à quoi? Tu vas essayer de t'imaginer avec tes mots à toi, avec ta réalité, ta façon de voir les choses,
ta perception,
t'imaginer comment Dieu est présent partout.
Ah, Mehdi, ça rejoint la vidéo qu'on a vue samedi soir, il disait finalement de faire... Par rapport au regard même qu'on a par rapport au goy ou autre, la façon dont on se comporte et la façon dont on doit exprimer, de faire chez Akol Yabdar ou de mettre, de pas de dire, d'affirmer au monde
pas de faire
que
pour.
Tout est créé par Dieu, par sa volonté. Il disait que c'est un message qu'on a vis-à-vis des...
Exactement. Chez Akol Yabdar.
C'est pas la vidéo, c'est Mehdi qui avait le contraire.
Non, on a vu la vidéo.
Ça,